Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Chaque samedi, une heure ou presque pour repérer, analyser, interroger les points de bascule de nos sociétés. Ce soir, une question, savez-vous qui est le plus grand vendeur de disques en France depuis plus de 2 ans ?
Et c'est le rappeur Wai Renoi qui est premier pour la seconde année, la deuxième année consécutive avec son album Pyramide et la réédition de cet album Pyramide 2. On sait très peu de choses sur Wai Renoi, je vous en avais parlé, mais on sait peu de choses, on sait pas son nom, on sait pas son âge.
On sait pas quoi. Il s'appelle Wai Renoi, donc ne donne pas d'interview et trône en tête des classements d'albums les plus vendus en France devant un autre rappeur, PLK, suivi du groupe légendaire Indochine. Ces deux premières places sont le symbole d'une domination totale du rap sur l'industrie musicale depuis maintenant 10 ans, symbole aussi d'une archipélisation des phénomènes culturels liés à la multiplication des médias et des supports d'écoute, car ceux qui sont au sommet des ventes ne sont pas toujours connus de la France entière. Mais signal de reconnaissance envoyé, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé cette semaine la création d'une maison des cultures urbaines à la Villette, à Paris. Rachida Dati, aka la Ghetto Girl, qui quelques semaines après sa nomination au ministère, débarquait dans une émission de rap sur Twitch, le DVM Show.
Je dansais derrière vous là. Je suis une ghetto girl.
Vous installez tout et vous venez me faire un DVM.
On fait beaucoup de bruit. Hein.
Un ministère de la culture sans bruit, c'est pas un ministère de la culture.
Après cette séquence, certains acteurs du rap avaient hurlé à la récupération. Tantôt nouvelle variété, tantôt nouvelle pop, commerciale ou alternative, standardisée ou diversifiée, toutes les tentatives de catégorisation ou d'opposition ont explosé. Une chose est sûre, le rap, plus polymorphe que jamais, s'impose aujourd'hui comme une grande musique populaire qui cherche un nouveau cap. Alors, le rap a-t-il encore quelque chose à dire ? C'est la question volontairement provoque de ce monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Et pour répondre à cette question, j'accueille autour de la table Mehdi Maizi. Bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Mais avec plaisir, puisque vous êtes devenue la figure de référence du rap en France. Allez, responsable du hip-hop chez Apple Music, animateur de l'émission Le Code sur cette plateforme. On vous a entendu aussi sur France Inter pour une grande masterclass autour de Kendrick Lamar. Vous publiez un livre passionnant, Le Rap a gagné. À quel prix ? Chez La Fabrique Édition. À vos côtés, Oriana Contevelbo. Bonsoir.
Bonsoir.
Après des années passées chez Sony Music ou Warner, vous avez fondé Volta Plus. C'est une structure d'accompagnement d'artistes qui s'occupent entre autres de Tiff, Yamé, Merveille ou encore Maureen. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir. Je suis ravie d'accueillir aussi avec nous Lignelé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de renom derrière les succès de La Fève ou de Tiakola qui sont tout au sommet des ventes. Et vous avez récemment sorti votre propre projet Baked, votre projet solo. D'abord, je vous propose qu'on se débarrasse d'une étiquette tous ensemble. On écoute Farid.
On va arrêter à partir de ce soir d'utiliser le terme urbain parce que ça englobe beaucoup plus, beaucoup de genres musicaux. Il y a du rap, il y a du R&B, il y a de la pop, ça englobe l'afro, le caribéen, du Joule. Et Joule, je ferai aucune blague sur Joule. Joule, il a vendu autant de disques de platine que Johnny Hallyday, en claquettes. C'est de là qu'elle vient cette culture. C'est ça la culture qu'on a et qu'on partage. Donc on va arrêter de dire urbain, ça veut dire quoi urbain? Ils enregistrent où les autres? Dans la forêt?
Le discours de l'humoriste Farid à la première cérémonie des Flammes en 2023, créé en réaction à la sous-représentation du rap dans la culture officielle, notamment aux Victoires de la Musique. Si le rap a gagné, il peut, Mehdi Maizi, il peut bien se débarrasser de ce qualificatif d'urbain aujourd'hui?
Oui, d'ailleurs, qui en fait n'a plus vraiment de sens, qu'on n'a jamais vraiment eu à mon avis, mais qu'on a encore moins aujourd'hui quand on a un genre qui finalement est un peu partagé et pratiqué par tout le monde, puisqu'en fait aujourd'hui on a des rappeurs qui sont à la campagne, des gens rappent partout en fait.
Oui, aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui un rappeur bourgeois pourrait émerger.
Mais ça existe.
Bien sûr,
ça existe
n'importe
en fait.
Où, et ce serait pas un
beaucoup
problème d'air de.
Qu'on le croit d'ailleurs.
Ouais, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Vous dites la street credibility, ce qu'on appelait la street credibility, ça a disparu. Et ça a ouvert beaucoup de choses.
Oui, complètement. Je pense qu'il y a eu des moments un peu forts, des artistes qui finalement n'avaient pas de crédibilité et qui finalement se sont imposés. Ils sont devenus des figures majeures de cette musique-là. Un des noms qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est Orelsan. Je pense qu'il a été un moment important avec le fait qu'ils viennent de province et d'une ville pas très représentée dans le milieu rap, Caen en l'occurrence. qui venaient en faisant des blagues, sans rapper des choses qu'on attendait, on va dire, du cosplay un peu traditionnel du rappeur. Donc je pense qu'il a ouvert beaucoup de portes, lui comme d'autres. Hein. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on a moins ces questions-là dans le rap actuel, mais c'est, je pense, le sens de l'histoire quand une musique devient pop ou populaire. Du coup, elle est aussi pratiquée par des gens qui viennent d'un peu partout.
Oriana Convelbo, vous avez accompagné des artistes justement comme Orelsan avant de vous occuper aujourd'hui de Yamé, révélation aux Victoires de la Musique en 2024, ou Tiff, vous avez suivi les Sopranos, les Orelsan entre autres. Comment est-ce que vous l'avez ressenti cette étiquette d'urbaine? Vous dites le rap a gagné parce qu'il est tout aujourd'hui. Alors il est ni urbain, il est ni pop, il est tout.
Il est absolument tout. Je pense que il est dans le phrasé aujourd'hui des gens de la pop, des gens de la variété. Il est.
Vous voulez dire il a infiltré, c'est-à-dire que c'est une grammaire, c'est une langue, c'est une manière de produire, une manière de poser sa voix.
Tout à fait. Je pense que tout est dans le phrasé, vraiment. Et je pense que c'est aussi une question de musicalité, parce que c'est tout simplement, pour moi, la manière d'énoncer définit quand même pas mal de choses, rythmiquement parlant et tout. Voilà.
Donc dans le lexique, dans les mots, en fait, le rap est partout. Et donc c'est
oui.
Bon.
Oui. Ça se retrouve, pardon, mais pour citer des exemples, par exemple, Damso, qui est un artiste francophone très important, qui a écrit pour Louane, par exemple. On a des producteurs, je suis sûr que Lilo aura peut-être des meilleurs exemples que moi, mais des producteurs qui sont issus de la culture rap, qui produisent pour des chanteurs, chanteuses françaises. Donc en fait, c'est je dis pas que ça existait pas avant, mais c'est beaucoup plus présent maintenant. Donc effectivement, c'est aussi un des exemples de cette culture-là qui s'immisce un petit peu partout via le phrasé, comme le disait Oriana, mais aussi via des producteurs, via des artistes qui écrivent pour d'autres ou qui produisent pour des artistes qui viennent d'autres genres musicaux. Ça, c'est très très présent aujourd'hui.
Le producteur, Lielé, justement, c'est vous. Hein. Vous faites partie justement de ces métiers qu'on dit de l'ombre dans le rap, mais qui ont émergé vraiment ces dernières années. Donc je le disais, vous avez fait l'étude de Tiakola, de La Fève, entre autres. Ouais. Et vous avez démarré en 2010, donc au début de l'âge d'or, le deuxième âge d'or, comme l'appelle Mehdi Maizi, du rap.
C'est là que j'ai commencé à produire. J'en écoutais depuis longtemps. J'étais dedans depuis toujours, depuis tout petit. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières armes, à me mettre vraiment à faire de la musique. Mais c'est plus tard que j'ai commencé vraiment à bosser avec des gros artistes et à faire mon nom.
Mais pour vous, c'était pas une question, la qualification en termes de style musical, je veux dire, ça résonnait pas pour vous quand on démarre dans le rap en 2010. Le streaming va propulser cette scène rap très très fort, on en reparlera. On sort d'une période un petit peu plus noire, plus difficile, que sont les années 2000. Vous débarquez avec quelles intentions et qu'est-ce que ça représente pour vous à ce moment-là?
Moi, je viens d'une école où je me suis jamais trop posé la question. Je fais partie justement de ces auditeurs de rap qui étaient là avant que ça devienne super populaire, que ça devienne la nouvelle pop, la nouvelle variété. Donc moi, je fais presque partie de la première tribu, entre guillemets, des aficionados qui étaient dans ça depuis. Et je suis content que ce soit aujourd'hui une musique qui se soit autant élargie. Mais comme
ceux qui étaient là par passion, vous voulez dire, avant que ça rapporte.
C'est ça, exactement. Exactement.
Alors, dans votre livre, Mehdi Maizi, vous dites le rap, donc ça s'appelle donc le rap a gagné à quel prix? Vous dites en introduction, à l'approche de la quarantaine, dans une musique obsédée par la jeunesse, ça nous amène forcément à nous poser cette question, est-ce qu'on a fait le tour de cette musique? Et surtout, est-ce qu'on a encore quelque chose à apporter à cette musique? Alors, ça nous a donné envie de se demander ce soir, le rap a-t-il encore quelque chose à dire? On répond ensemble juste après Ness et Bouchy en playlist sur France Inter.
Sur mon dos y'a du sucre et je gère comme il faut avec ma tête de ricain du sud. Un peu d'huile dans un sac Salomon, tu parles sur nous et les infos remontent. 2012 j'écoutais l'apogée sur un Blackberry noir, banlieusard héritage, fier de mon héritage. Nique les racistes, vive mes racines. Ouvre tes yeux et tes oreilles, c'est moi qui paiera. C'est toi qui écoute, c'est moi qui achète. C'est toi qui réclame, c'est moi qui régale. Je suis moitié Snoop Dogg et à moitié Raekwon. Je suis avec BU, je suis bien dans le vaisseau. Y'a mon blaze sur la liste et mon son dans le caisson. Je vais kiffer les feux, mais je vais kiffer l'ingé son. Le vendredi à Londres, le samedi soir à Paris. Le dimanche, je pépère, je recompte pépette. En boucle dans ma tête comme un sang. Je l'aime, elle le sait, elle le sent. Les blèmes dans le ventre, les yeux dans le vent. Le game, on est deux dans le sang. Marche à deux dans le centre. Pas plein, des frères j'en ai peu, des mains j'en ai deux, des fans j'en ai plein, j'allume, je m'éteins.
dans le nord, dans le sud, je me sens fort au-dessus. BUNS, on a retourné les salles. Plus dans la cave, on a changé d'étage. On a gommé les tâches et empilé l'étal. Dis-lui.
Mais combien de gens n'ont pas cru en nous, je sais pas. Je sais qu'ils s'en mordent les doigts. Avec NES, on arrive comme Gogeta. Ils font tous des signes de croix. Vendredi à London, samedi soir à Paris. Trop de soleil au pays, moi je voulais de l'ombre. Maintenant je veux le soleil, les pépettes, le war. Et je sais que le blast sera légendaire sur la tombe. Monte dans la navette quand t'entends le gong. Monte dans la navette que je tiens à ma blonde. Monte dans la navette si t'es pas encore dedans et que t'écoutes encore des trucs à la con. Elle bump que mes sons dans la caisse, mais je l'évite comme le colère à la peste. Quand tu deviens big, il faut remplir l'assiette. Quand tu deviens riche, il faut changer d'adresse. Là, je vais la retourner comme une crêpe à Brest. Je vais la bloquer si jamais elle me texte. Pour dire qu'elle aime pas trop le son, je dis son blague. Mais malgré tout, elle-même dit que je suis le best. Ok, je vais péter des chaînes, mais je sais que ses fils de pute préféraient nous voir en cage.
Ok, je vais péter bougie, je vais relire mon 16 histoire de les choquer sur le track.
Appelle les labels, chaque projet on les braque.
Les cases on les coche,
les codes on les cache.
J'étais le timide qui était au fond de la classe qu'on faisait jouer au cash. J'parlais pas trop aux gens, j'avais quelques blocages.
Moi, c'était le contraire, je pensais qu'au cash. J'parlais au tasse, mais j'parlais au gaz. J'parle d'elle ou pas, si mon cœur il est cassé, mon joint il est tassé.
Ceux qui font tout pour que je change, ceux qui me payent pour que je chante. C'est mes frères, on a tous le même sang. Puis remets du gaz et remets de l'essence.
Je remets du gaz, je mets pas de tabac. Je mets pas de filtre, je mets pas de taga. Ça tient dans le cash money, mais je suis pas taiga. Je suis là pour le steak comme les Chicago.
Aussi discret que prolifique avec 7 projets en 5 ans et à 21 ans seulement, Ness s'est donné pour mission de redonner ses lettres de noblesse au rap avec un flow plutôt à l'ancienne, mais une inspi qui puise dans tous les courants musicaux actuels. Mission accomplie sur ce titre, Vendredi à Londres, extrait de son dernier album pour de vrai.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Toujours avec Mehdi Maizi, Oriana Convelbo et Liele pour parler de rap justement ce soir. Le rap qui s'est imposé comme la musique numéro un en France et qui est aujourd'hui, comme on le dit parfois, expression qui est un peu passée d'école, mais je l'aime bien, à la croisée des chemins. Parce que le rap est partout, jusqu'à la playlist de France Inter, on vient de l'entendre. Booba a fait son entrée dans la playlist de France Inter. J'ai redemandé à notre directeur de la musique, Jocelyn Perrotin, c'était en 2017. Et c'est une année intéressante parce qu'avant de se demander où va le rap, on voudrait savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et 2017-2016, c'est un moment de bascule pour le rap, Mehdi Maizi.
Oui, puisqu'en fait, c'est le moment où justement le streaming, donc en fait, ces plateformes de streaming qui existaient depuis la fin des années 2000, hein, Spotify et Deezer, pour ne pas les nommer, se créent, je crois, 2007 et 2008, si je dis pas de bêtises, ou 2006-2007, bref, mais... c'est pas encore extrêmement populaire, tout le monde ne les utilise pas encore, il y a encore beaucoup de piratage au début des années 2010, et puis finalement, à partir de l'été 2016, les gens qui écoutent sur les plateformes de streaming vont être comptabilisés dans les ventes, en fait. Donc, quand on stream un album, il y a des équivalents qui...
Les fameux disques d'or commencent à tomber, en
exactement,
fait.
Exactement, ça commence à correspondre à ce qui équivalait avant à des achats de CD. Et donc, ça va être vraiment un game changer commercial pour le rap, puisque ça va... rendre concrètes des écoutes qui étaient historiquement illégales, en fait. Donc on n'arrêtait pas de dire que le rap ne vendait plus, que le rap n'allait plus bien, alors que les gens continuaient d'écouter du rap, en fait. Les gens continuent d'en écouter énormément. Moi, dans les années 2000, parce que qui est un peu vu comme la décennie noire commerciale pour l'industrie du disque, globalement, moi, c'est peut-être la décennie où j'ai le plus écouté et acheté de CD. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, à ce moment-là, pirataient les albums. Et je pense que 2016, c'est la bascule, puisque... les écoutes illégales deviennent légales grâce aux plateformes de streaming. Et là, il y a une pluie de disques d'or à partir de janvier 2017. C'est n'importe quoi. Et moi, je travaille chez Deezer à l'époque. Et donc, je vois ça de l'intérieur où je vois les top 50 qui commencent à changer avec 40 morceaux de rap dans le top 50, ce qui n'existait pas avant, en fait. Donc, effectivement, c'est un moment très important et un point de bascule, ouais.
Avec cet effet un peu aussi biaisé qui est que le rap est écouté majoritairement par les jeunes. Ce sont eux qui vont faire ce ranking, en fait, cette explosion dans les classement d'écoute en ligne du rap. Donc il y a un effet un peu tronqué aussi.
Tout à fait, et j'en parle aussi, et je pense que c'est important de le dire, parce que quand on dit la musique numéro 1, oui, si on prend finalement en compte les critères actuels de mesure de succès, qui sont globalement essentiellement le streaming où le rap est partout, mais il y a aussi plein de gens qui écoutent de la musique et qui n'ont pas encore adopté ces méthodes d'utilisation là. Donc je pense, moi, quand on dit par exemple, on a cité Werenoi tout à l'heure en début d'émission, qui effectivement est la personne qui vend le plus de d'albums en France, je pense qu'il y a toute une partie de la France qui ne le connaît pas, parce que le rap a beau être dominant sur le streaming, il est aussi parfois absent des médias mainstream, d'une certaine forme de culture populaire. Donc quand on dit c'est la nouvelle pop, j'étais le premier à le dire, mais je pense qu'il faut modérer ça, puisqu'en fait c'est la pop, c'est aussi censé être connu par tout le monde, et c'est pas le cas de Werenoi, par exemple.
Mais finalement, la notion de pop, c'est parce que c'est la notion de populaire qu'il faut retenir, ça, plus que la notion de pop, parce que tous les genres ont leur version pop d'une certaine manière.
C'est ça.
C'est votre conviction aussi, Oriana Combelbo.
Oui, tout à fait. Et je trouve que aussi il y a quelque chose qui est extrêmement fort qui se passe à cette période-là. C'est les apports mélodiques, pour moi, qui changent tout. En fait, on se retrouve en fait avec de plus en plus de refrains, et puis aussi d'autres typologies de musique, donc des niches, des musiques qui viennent des diasporas de façon générale.
Oui, on l'a vu avec aussi Youssoupha, qui s'est lancé dans l'Amapiano, par exemple, qui est un des parrains du rap, mais qui accompagne aussi tous les jeunes.
Exactement.
Aujourd'hui, on parlait de sonorité caribéenne tout à l'heure. Ouais.
Exactement.
Maureen.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on arrive là à un moment qui est vraiment différent, où tout le monde, en fait, veut impacter et veut intégrer sa propre culture, une culture qui est, oui, diasporique parfois. Et voilà. Et donc, on a, je trouve, une nouvelle hybridation, une nouvelle manière de faire les choses qui rend tout ça assez passionnant.
Donc la mélodie est arrivée, elle a tout bousculé, elle a rencontré le streaming, enfin tout ça a propulsé, a participé donc à cette explosion du rap. Mais je voudrais qu'on revienne, puisqu'on est dans les points de bascule, encore un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a celui-ci qui est capital et que vous citez dans votre livre. On écoute Section d'Assaut.
Aïe.
Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé, papa, maman, les gars, je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé, papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Ça dépend de quel point de vue tu te places.
2010, Section d'Assaut et ce tube. Bon, il y aura Maître Gims après qui va se lancer en solo. Ça ouvre un peu la décennie, la grande décennie du rap dont on est toujours en train de récolter les fruits. Donc cette fameuse décennie streamée, mélodifiée, dont on était en train de parler.
Danser.
Et danser. Mais ça ouvre aussi la grosse question qui est celle du rap commercial.
Je pense que là, on ne pouvait pas avoir meilleur exemple que Section d'Assaut et Maître Gims pour illustrer ce que disait Oriana un peu avant, puisqu'effectivement, dans les années 90, qui est le premier âge d'or, on va dire, du rap francophone, les artistes souvent avaient du mal avec le succès commercial. Effectivement, c'était terrible d'être targué d'artistes commerciaux. Et on peut citer des exemples, avec IAM, avec le Mia, qui a souvent renié ce morceau, qui ne voulait pas le jouer pendant des années. On peut citer La Fièvre d'NTM. Joey Star déteste encore ce morceau à ce jour, alors que c'est leur premier tube. Et on arrive en 2010 avec des artistes qui sont complètement décomplexés avec le succès, avec le fait d'être populaires, et qui même vont chercher ça. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et Gims est un de ceux qui a le mieux incarné ça, puisque c'était à la fois un rappeur qui était crédible. Quand il arrive avec Section d'Assaut, tout le monde le trouve trop fort, il rappe fort, il est très technique, on parlait de technique, de démonstration de flow. Gims, il incarne parfaitement ça, et en même temps, il a une voix de ténor, et donc il peut vraiment jouer sur les deux tableaux, et je pense qu'il fait vraiment partie des artistes, aussi un peu avec La Fouine, je dirais quand même qu'elle a été important à l'époque, de ceux qui ont ramené un côté très chanson, presque chanson française, dans le rap français. Et ça, c'était assez important, et ça a été vraiment un game changer aussi, ouais.
Oui, Oriana.
Moi, ce que j'entends, c'est que il y a une revendication aussi des origines, clairement dans les mélodies, dans l'apport des mélodies, dans les refrains. Ils ont tous des terroirs qui sont extrêmement puissants en termes de musique, en termes de musicalité, en termes aussi de codification de la mélodie. Donc, ce qu'on appelle la mafia congolaise aujourd'hui. Maître Gims, mais tellement d'autres.
C'est-à-dire qu'ils vont apporter aussi autre chose qui va revitaliser le premier âge d'or du rap. Vous, comment est-ce que vous l'avez ressenti, Lielé à son là? Est-ce que vous allez proposer autre chose, vous, 7 ans plus tard, avec Tiakola? Des choses, justement, qui partent de l'hybridation. C'est un point de départ. C'est même plus une première évolution.
C'est à la fois qu'ils partent de l'hybridation et en même temps qu'ils reviennent un petit peu aux bases. C'est une espèce de métissage entre ces nouvelles mélodies qui sont super populaires dans le rap français et en même temps de poser sur des samples ou des instrus qui font un peu plus penser à ce qui se faisait à l'époque. Parce que c'est vrai
que... À l'époque, vous dites 90, là, du coup.
90, même 2000. Même ce qui se faisait aussi beaucoup aux États-Unis, parce qu'il y a quand même toujours un lien intime
entre
ce qui se fait.
Ça, c'est votre double casquette d'ailleurs.
C'est ça.
Vous passez votre temps entre la France et les États-Unis.
C'est
ça,
ouais.
C'est des problématiques qui sont différentes. Il vous semble, la façon dont elles sont abordées. Est-ce que chez nous, la façon dont on interroge en permanence la légitimité du rap devient pas un petit peu suspicieuse?
Je pense que c'est des questions qui sont très différentes. Si on compare les États-Unis et la France, parce qu'il y a une filiation naturel aux États-Unis entre le rap et l'histoire de la musique de ce pays-là. Le rap, ça découle directement de ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire la soul, le jazz, le funk,
blues.
Le blues. Donc c'est l'arrière-arrière-petit-fils du... Donc là-bas, je pense que même s'il y a eu des conflits générationnels, forcément quand il y a eu des premiers morceaux de rap, Rick James ou Prince, ils n'étaient pas super enchantés d'entendre être samplés par des jeunes qui reprenaient leurs boucles et qui, à leurs oreilles, parlaient dessus pour dire des profanités. Mais c'est vrai que nous, en France, ça a été plus une espèce de rêve américain, de culture rapportée. Et donc, les critères de ce qu'est le rap ou de ce qu'est pas le rap, c'est je trouve que c'est des notions qui sont floues et qui sont différentes selon qu'on parle des États-Unis ou de la France.
On va écouter justement une leçon de rap entre le rappeur préféré des Français, il s'appelle Soprano, et Jean-Pascal Zadi. Ouais.
De toute façon, toi, tu t'appelles Saïd, donc t'es plus proche de Chebralet que de Kofi Olomidé, tu vois.
Pardon ? Je suis comorien, frère. Je suis peut-être même plus africain que toi. Le seul truc, c'est qu'il manque un peu de maturité dans ton texte. Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout.
Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. J'ai dit une connerie.
Oui, tout simplement. J'ai dû me connaître. Ah, vous dites oui. Regarde la Cante
Verbo. Oui, quand
c'est
on connaît.
C'est tout simplement noir,
ouais,
le film de Jean-Pascal Zadi.
Mais effectivement, mais quand on connaît, le passé de Soprano, bien sûr que c'est une bêtise.
En tout cas, c'est le seul rappeur à vraiment se hisser dans le classement des personnalités préférées des Français. Mm-hmm. Il a aussi été en tête du classement des petits Français, celui de Mickey Magazine, pendant 4 années consécutives. Bon, là, il a dû faire un peu de place à Léon Marchand et Artus, mais Soprano, qu'est-ce que ça incarne justement dans cette reconnaissance, acceptation aussi du rap en France, peut-être, Mehdi Maizi ?
Bah, énormément de choses, puisque effectivement c'est quelqu'un qui vient profondément du rap, hein, il commence à la fin des années 90, déjà il incarne Marseille, qui
Psychiatre
quand même,
de la Rime, c'est son groupe.
Exactement, avec le groupe Psychiatre de la Rime, dont aussi Alonso, qui est aussi une des grandes réussites du rap francophone et marseillais, est également issu. Donc déjà, c'est Marseille, qui est quand même un axe, il y a un axe Paris-Marseille qui est quand même historique et très important dans l'histoire du rap français. Et puis c'est un des rares rappeurs qui vraiment vient d'un groupe de rap extrêmement respecté, les Psychiatres de la Rime, que tout le monde a écouté, qui a eu un vrai succès, et qui lui a réussi à faire le pont et la bascule vers, pour le coup, la pop. Et quand je dis la pop, c'est la France, tout le monde connaît Soprano. C'est pas le cas de tous les artistes qui sont numéro 1 au classement.
La variété même.
Oui, exactement. Vous dites dans la rue, on va reconnaître un Patrick Bruel, mais pas un PLK. Quoi.
Exactement. Alors que Soprano, lui, il est identifié par tout le monde, sans jamais perdre, et ça c'est important, une forme de respect et de crédibilité du rap.
C'est donc le pont absolu, Soprano.
Exactement, exactement. Ça veut pas dire que tout le monde adore ses albums, parce qu'effectivement, comme il fait le pont, il touche à plein de choses, mais je pense que c'est celui qui incarne le mieux le lien entre tout le monde, quoi.
Lielé, comment est-ce que le conseil que donne Soprano à Jean-Pascal Zadi, vous le recevez, vous, qui accompagnez aussi les artistes, met un peu de fond. Elle est toujours là, cette question de le rap qui a du fond, le rap qui a du sens, le rap qui n'en a pas, le rap qui s'est perdu dans les tubes, etc. Vous voyez de quoi je parle ?
Ouais. Non, c'est d'autant plus aujourd'hui une question que je pense que pendant... alors, je parle pas pour tous les styles de rap, mais peut-être que dans le côté tube, donc quand la mélodie est arrivée, c'est devenu quelque chose de nouveau, ça a créé une espèce d'euphorie et on s'est un peu presque perdu dans les mélodies où on écoutait les morceaux presque plus pour écouter les mélodies, les refrains que se concentrer sur le fond des paroles, et c'était même quelque chose de nouveau dans le rap. Les rappeurs même faisaient appel à ce qu'on appelle des top liners, c'est-à-dire des gens qui les aident à créer donc des mélodies.
Ils viennent poser leur voix et créer des mélodies sur les instrumentaux qui sont proposés en studio.
Exactement, et les rappeurs après donc écrivent des paroles sur ces mélodies pour faire les tubes qu'on connaît.
Mais et là-dessus, le texte, du coup, se perd un peu?
Ben, c'est toujours plus difficile de faire un texte profond sur de la mélodie que sur du rap. C'est, enfin, c'est pas une règle absolue, mais.
Débat. Oui, y a... alors il y a débat, ouais.
Pour moi, en tout cas, du travail, quand je bosse avec les rappeurs, c'est le ressenti que j'ai eu, ouais.
Oriana Combe-Velbo, vous êtes dans cette position à rebours. Pour vous, on est dans une période plus politique que jamais, y compris dans les textes des rappeurs aujourd'hui?
Bah oui, parce que moi, je considère qu'effectivement, le langage en soi, il est politique. La reine de France, pour ne pas la citer, Aya, à chaque nouveau track, en fait, envoie une expression dont on...
En Katchana, bébé.
Par exemple, entre autres, mais en fait, dans chaque nouvelle chanson et dans chaque nouveau hit, il y a un nouveau mot, enfin en tout cas, il y a un mot qui devient trendy, et ça, je trouve ça génial.
Mais c'est vrai que la musicalité aussi est politique. On va écouter un autre point charnière, ça y est, on a réavancé dans le temps, on est en 2019 avec PNL.
ODD, je la passe la tête, la pécou, la vie sert des regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu sais les pectoraux gainés. Les bacs que t'aimas parce que les Yankees ne tomberont jamais sur messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, tu fais des singeries. La rue, je la dévalade tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.
ODD, PNL, fait peur ou pas? Orifi sont au sommet de la tour Eiffel dans le clip. Ils n'hésitent pas à découper un peu de shit. Même, c'est un clip complètement hallucinant que découvre la France, qui s'était fait au rap avec Orelsan, Simple, Basique en 2017-2019. C'est une espèce de claque aussi, ODD, dans la musicalité. Peut-être que c'est une explosion vers ce rap qui peut être tout, non, Mehdi Maizi?
Je pense que PNL, c'est très très important, oui, parce que... Moi, je dis toujours ça, si on faisait écouter PNL, je pense à un auditeur de rap des années 90 qui aurait été cryogénisé, qui aurait pas écouté de rap pendant 20 ans, je pense qu'il se dit, mais c'est pas du rap. Alors que dans le rap, ça n'a pas... Enfin, pour tout le monde, pour les gens qui écoutaient du rap au quotidien, c'était clairement du rap, c'était clairement un moment. Donc je pense qu'ils ont bien symbolisé le côté évolution justement de cette musique-là, utilisation de l'autotune aussi, quand même un moment important, qui est un outil qui arrive dans les années 2000 et qui va être de plus en plus utilisé dans le rap. Et que
ces voix un peu, pour le dire, avec robotisé, une vibration robotisée. Ouais.
Exactement, sauf que eux justement l'utilisent différemment. En fait, d'ailleurs, il y a même des morceaux, on ne sait même pas s'il y a de l'autotune ou pas, mais pourtant il y en a, parce que je pense qu'il y a vraiment, ils ont réussi à sublimer ça et l'utiliser presque comme un instrument. Et puis aussi, je pense, un propos qui était vraiment parfait et très générationnel, le côté désenchanté, le fait de raconter le spleen, un monde un peu plus presque dépressif que le rap triomphal des années 2000 et 90. Historiquement, dans le rap, on est triomphal, on n'est pas trop dans le spleen. Et je pense que PNL a vraiment mis ça sur le devant de la scène. Et puis, il y a la musique, il y a les productions qui, effectivement, étaient dans la mélodie, qui ont exploré un genre qu'on appelait le cloud rap, mais vraiment comme personne. Donc, je pense que c'était aussi, ça fait partie des quelques artistes français qui ont amené quelque chose de profondément nouveau musicalement. Lié les parler de le regard avec les États-Unis qui est toujours très important, où souvent, effectivement, on s'inspire des Américains, et je pense que PNL font partie, comme Jul d'ailleurs, des gens qui eux ont ramené quelque chose de nouveau.
Tout en gardant aussi une énergie brute, on va dire, parce que parfois le rap se fait accuser de gentrification aussi, ça c'est son nouveau,
oui, bien sûr.
Son nouvel adjectif. Oui. Mais ça va ouvrir à des gens, par exemple, qui vont faire part de leur sensibilité. Un rappeur comme This Is La Peste qui se découvre en lover et qui fait une nouvelle carrière en lover. On a un Ichon en slip qui a beaucoup fait parler, alors qu'on pensait que c'était bon parce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait avant lui, non?
Slip, je sais plus, mais il y a eu comme Young Thug était nu sur la pochette de Barter Six, donc ouais. Oui, il allait plus loin que le slip.
Et puis il y a Lil Nas Six presque tout nu dans les
douches. Mais ça a fait débat aussi, après, ouais. Ça avait vraiment fait débat.
Non, je disais que ce qui est intéressant avec PNL, quand on revient sur cette histoire de rap, nouvelle pop, c'est que c'est des artistes qui sont sur le toit donc de la France. Mais qui en même temps sont très peu présents, enfin voire complètement absents des médias, dans le sens où ils font pas d'interviews, ils veulent pas se montrer, on les a jamais entendus parler et tout. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre un peu. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la nouvelle génération qui les voyaient en en super-héros un peu aussi pour ce côté mystérieux. Et c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de rappeurs à l'époque qui ont essayé de jouer le jeu de la télévision, donc de monter sur tous les plateaux télé, tout ça. Et ça s'est pas toujours bien passé parce qu'il y avait une espèce d'incompréhension entre donc les rappeurs de la fin des années 2000, début 2010. Et donc, du coup, les gens des plateaux de télévision qui connaissent pas forcément cette culture, qui étaient un petit peu...
Ils ne savaient pas comment l'aborder. Le cas de Booba, par exemple, est un cas d'école
Booba,
là-dessus.
Exactement, mais même Vald ou... voilà, donc...
Fab, à l'époque, en 1990, taratata. Historiquement, il y a un peu... Ça se passe mal, quoi.
Exactement. Et donc, et PNL, il représente un peu ce... Ben, regardez, maintenant, on se libère de tout ça. On n'a plus besoin de vous pour faire de l'argent, pour que notre musique soit écoutée. Et ça a un bon côté, parce que donc il y a plein d'artistes. Mais c'est vrai qu'on est dans cette espèce de... nouvelle pop, oui et non, parce que, comme vous dites, on passe pas de partout à la télé, on n'est pas connu par tout le monde, par tous les Français, donc on est toujours un peu dans ce...
Il y a eu un choix de s'affirmer en dehors des médias, c'est vrai, donc ils donnent pas d'interview, ils sont quasiment invisibles nulle part. Ouais, Renoir le disait en début d'émission.
Exactement, c'est la même chose.
Même chose, et en même temps, ils vont pas pouvoir se sceller, on va dire, totalement avec le reste de la France, parce que ils sont un peu invisibilisés aussi dans cette démarche.
Exactement.
Quel paradoxe. vous restez avec nous sur France Inter. On n'a pas fini de comprendre maintenant où va le rap, maintenant qu'on sait comment est-ce qu'il est arrivé si loin. Ça continue sur Inter, juste après Drake, évidemment. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who, who? Who, who? Yeah, yeah. OVO Sound 2025.
Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that ass till the morning come. You want shots for the girls, then order some. Who's calling it? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who, who? Who, who? Who, who?
Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Is it party? Where's the function?
Where the fuck the function? Where the fuck the function?
Baby girl. Baby girl. Baby girl. Baby girl. Let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake an ass in the club with your homegirls.
Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma ask you, like, bless me. Hit the dance floor, get nasty. Impress me.
Baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake an ass in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world.
Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma ask you, like, bless me. Hit the dance floor, get nasty. Impress me. Hey, how many hoes in this club? Is it just me and you, my love?
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Et vous découvrirez peut-être à rebours Hotline Bling, mais je vous conseille ce morceau qui fait partie de l'histoire du rap. On est ensemble jusqu'à 19h avec le journaliste Mehdi Maizi, qui fait partie du clan Drake, il me l'a avoué pendant ce titre.
Ça y est, je suis grillé.
Une femme de l'industrie, la patronne de Volta Plus, Oriana Convelbo, le producteur Liele, qui fait entre autres les sons de celui qu'on appelle parfois le Mbappé du rap, Tiakola. Et nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Anis Rally, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes créateur de contenu sur les réseaux depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, animateur de moins de 10K sur Move, la porte à côté ici. Vous recevez des artistes émergents régulièrement. Vous avez découvert aussi dans des vidéos où vous faisiez chanter les Français. Les Français savent-ils rapper plus précisément?
Ils chantaient pas trop.
Ils improvisaient des flows et vous baladiez avec une enceinte. Vous avez fait des vidéos aussi avec Panayotis Pasco qui est venu vous réveiller après une grosse soirée notamment. Et on avait envie de vous entendre en cette seconde partie d'émission sur le rôle qu'a joué YouTube et les réseaux dans cette conquête du rap. D'abord, puisque Lyle mentionnait une sorte d'aplomb un peu condescendant envers les rappeurs sur les plateaux de télé à l'époque, ça a été pareil pour la culture YouTube. Ils sont similaires là-dessus.
Non, mais il y a beaucoup de parallèles, énormément de parallèles dans le fait d'avoir la possibilité de prendre la parole, que ça se démocratise un peu et avoir ce côté un peu outsider, d'avoir grandi avec d'autres figures dans lesquelles on peut pas s'identifier. Donc ouais, il y a pas mal de parallèles, même si Internet, dans un premier temps, la première vague, c'était quand même ceux qui avaient des caméras et qui savaient monter. Mais à partir du moment où ça a été la possibilité de se filmer avec son téléphone...
Donc bah, c'est les riches, quoi.
Non, mais il y a eu un peu de ça. Il y a eu deux temps. Parce que moi, je me rappelle du moment où j'étais frustré. J'ai dit, j'ai pas de caméra, je savais pas quoi faire. Mais après, dès qu'il y a eu la possibilité de se filmer avec son téléphone, ça a démocratisé.
2007, l'arrivée du smartphone. YouTube, c'est 2005.
Ouais, et puis petit à petit, en fait, il y a eu une application qui m'a beaucoup aidé qui s'appelait Vine, qui a été l'une des premières qui a permis un peu ça, un peu l'ancêtre de TikTok. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de streamers,
de créateurs. C'est là-dessus que vous avez cartonné avec Panayotis Pasco,
ouais,
entre autres.
C'est ça, entre autres, ouais. Mais je pense, voilà, c'est ça qui fait que il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui font des ponts, qui se retrouvent aussi créateurs aussi. En fait, c'est une communauté qui se connaît et qui est beaucoup plus reconnaissable que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les médias mainstream, en tout cas.
Et comment YouTube a porté cette émergence du rap, puisqu'on a parlé du streaming tout à l'heure, de la comptabilisation aussi des streams convertis en disques d'or à partir de 2016. YouTube, qu'est-ce que ça joue justement au milieu de cette décennie noire?
YouTube, c'est le pont vers...
2000.
Ouais, mais c'est clairement le pont, parce que bon, moi, je fais partie des créateurs qui font du divertissement avec le rap, et etc. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que YouTube, c'est aussi une plateforme où il y a de la musique et où il y a des clips, et jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui consomment le rap qu'avec YouTube, puisque c'est une manière gratuite d'avoir accès au rap. Nous, on a pris l'habitude, ça y est, on a les plateformes de streaming et tout, on a nos algorithmes et tout, mais il y a des gens encore, ils prennent le bus avec une vidéo lancée sur YouTube, et en fait c'est aussi un indicateur pour savoir qu'est-ce qui est en train de fonctionner, qu'est-ce qui est en train de marcher. Et l'autre indicateur, bien entendu, c'est les clips, qui est un mélange un peu des deux, c'est les gens qui veulent regarder mais qui veulent aussi écouter de la musique. Donc les plus gros scores de YouTube jusqu'à maintenant, si on compare les meilleurs scores de Squeezie et les meilleurs scores de Gims en termes de vues, il n'y a pas photo du tout, quoi.
Section d'assaut, le groupe de Gims et Black M, par exemple, on parlait tout à l'heure de Gims, ils sont des groupes qui sont nés sur YouTube, on peut le dire, en fait, c'est des YouTube natifs, en fait.
Ouais, il y a un peu de ça.
Orelsan aussi, puisqu'il faisait des sketchs sur les réseaux, et c'est par le visuel qu'il se fait connaître.
Exactement. À l'époque, YouTube n'était pas aussi évident, donc il y avait aussi beaucoup de MySpace, beaucoup, section d'assaut, beaucoup de Facebook à l'époque aussi.
Paraît loin, mais oui.
Mais en tout cas, c'est ça, c'est cette idée d'avoir quelque chose d'accessible où genre, là, on peut prendre le pouvoir, on n'est pas obligé d'attendre qu'une radio nous valide, qu'une télé nous valide, et hop, on peut d'un coup poster notre freestyle et essayer de faire parler un peu de soi. Et ça, oui, Internet et YouTube en soi a beaucoup permis ça, quoi.
Et les YouTubeurs eux-mêmes se sont mis à parler de rap, ils ont aidé à faire connaître ce qu'était cette musique. D'ailleurs, on va vous écouter, vous avez fait un court-métrage avec Golden Moustache qui est absolument génial, qui imagine un monde sans rap. Enfin, on vous écoute, c'est votre film. Hein.
Hier, j'étais dans un monde totalement différent. Un monde dans lequel le style de musique dont je vous parle, là, le rap, était partout. Le style le plus populaire du monde. Et aujourd'hui, je me réveille dans un monde où le rap n'existe pas. Où personne n'en a jamais entendu parler.
Et comment vous expliquez ça, selon vous?
Je sais pas. Enfin, j'ai souhaité que le rap n'ait jamais existé, parce que je déteste ce style de musique, mais...
Vous devriez être content.
Oui, mais non, parce que c'est pas mon monde.
Votre idée à ce moment-là, c'était aussi de faire mieux comprendre. Enfin, je veux dire, vous avez participé à expliquer, à vulgariser, à dédiaboliser aussi pour certains parents ce qu'était le rap.
Ouais, après, moi, si je suis honnête, c'est vraiment pas des trucs que je conscientise, parce que moi, j'ai l'impression que le rap a toujours été mainstream, où j'ai grandi, en fait. C'était... Non, mais c'est vrai. En fait, je me suis rendu compte après que un mec, que Sniper gravé dans la roche, c'est pas la France entière qui connaissait ce son. Donc, en fait, pour moi, c'était assez évident. Limite, en vrai, dans ce court-métrage, moi, je partais plus de l'idée de me dire, en fait, l'art, ça peut sauver des vies, et quel que soit le médium, que ça soit le théâtre ou je sais pas quoi, il faut le valoriser. Et juste, moi, en fait, j'ai peut-être, on va dire, l'audace de mettre le rap au même niveau que les autres arts. C'est peut-être ça ma petite folie. Mais sinon, à part ça, moi,
vous aviez de l'avance finalement.
Bah, je sais, comme je vous disais, comme c'était mainstream, naturel. Du coup, je me suis pas rendu compte. J'ai pas fait exprès.
Vous avez grandi dans le 93, ouais, ouais. Qui était aussi baigné, bercé par des grandes figures de rap, évidemment, puisque NTM, entre autres, voilà, ça fait partie des, on va dire, des lieux. Aujourd'hui, presque plus tard, ce sera des lieux de pèlerinage, le 93, dans la grande histoire du rap. Il y a une question que vous soulevez, Mehdi Maizi, dans votre livre, qui est intéressante par rapport à YouTube et au fond aussi au streaming. C'est ce moment où le rap pourrait devenir juste un contenu de plus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans la façon dont on l'écoute, vous disiez tout à l'heure, on peut lancer une vidéo YouTube dans le bus, on laisse couler, mais et enchaîner peut-être justement sur un sketch internet et tout ça est un peu au même niveau. C'est plus vraiment une question de musique, mais une question de contenu.
Bah, je pense que ça, alors c'est une question effectivement intéressante, mais encore plus large. C'est aussi la question même de la manière dont aujourd'hui on est assujetti aux algorithmes. En fait, si moi j'aime le rap et l'humour, en fait, je vais scroller et je vais avoir effectivement un teaser pour un clip de rap juste après un contenu rigolo et puis après un contenu qui va m'énerver. Donc c'est en fait, effectivement, tout est poussé de la même manière par rapport à ce qu'on a l'air d'aimer. Et du coup, le rap, parfois, c'est aussi, ça s'ajoute un peu au bruit ambiant. C'est un contenu effectivement en plus et aujourd'hui ça va très très vite, tout le monde est très sollicité, il y a énormément de sorties, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a vraiment, enfin il y a un nombre d'albums tous les vendredis parce que les albums sortent le vendredi qui est
faut nourrir les tuyaux, non ? Faut nourrir la bête ?
Oui, bah, pas nécessairement, mais effectivement, en tout cas, on est rentré dans
Anis,
ce rythme.
Anis Rally tripote un petit peu le fil de son casque.
Non, on n'est pas...
Il fait... Mais c'est pas vraiment ce qu'il veut nous dire.
J'adorerais qu'il réagisse après.
Bah non, mais bon, moi, j'admire le fait que t'écoutes autant de trucs qui sortent le vendredi, et... parce que je ne saurais pas le faire aussi. Ouais.
Mais
effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a... On est rentré effectivement cette logique un peu de surproduction parce que aussi, et ça c'est un peu l'écueil du streaming, c'est qu'en fait le streaming, plus il y a de morceaux et plus on génère potentiellement d'argent. Donc en fait les albums sont des albums souvent à rallonge parce que globalement, si vous, techniquement, mathématiquement, si vous avez un album de 23 titres, il rapportera plus d'argent qu'un album de 12 titres, sauf si vous avez 12 tubes. Donc forcément, plus d'albums, plus de projets. On a écouté Drake avant qui lui pour le coup est un artiste qui sort un projet par an et qui justement est complètement presque l'artiste de la période streaming où il a essoré un peu cette manière-là jusqu'à la moelle, quoi. Donc effectivement, on est dans cette logique de surproductivité.
En tant que producteur, justement, quand vous réagissez à ça.
Non, ben il y a une pression du public aussi.
Qui s'est habitué en fait à la musique, quoi.
Qui s'est habitué à écouter beaucoup de musique, à enchaîner les projets et aussi à ne pas forcément écouter les projets pendant longtemps. Là où il fut un temps dans la préhistoire où on en achetait un CD et on devait l'écouter pendant 6 mois.
Même quand on l'aimait pas. Il était là en fait.
C'est ça en fait, c'est que moi je me souviens, en étant petit, une fois qu'on avait acheté un CD, presque quand on l'aimait pas, on s'obligeait à essayer d'aller aimer des morceaux parce que bon, on avait
sorti de l'argent, quoi.
C'est ça. Et des fois, c'était même une bonne chose parce qu'on s'éprenait à découvrir des choses que de base on se voyait pas forcément écouter. Et après, des fois même, c'est notre morceau préféré de l'album. Et ça, aujourd'hui, on est dans une logique où si dans les 5 premières secondes, on n'est pas sur un tube qui nous accroche et tout, ben on change parce qu'en fait, on a le choix, on a l'abondance de la musique.
Monétisé à partir de 30 secondes d'écoute, morceaux sur Spotify. Moi, j'ai écouté votre projet solo Lielé qui s'appelle Baked. Ouais. Et c'est vrai que vous vous êtes fait plaisir, en fait, avec des orchestrations, des choses très cinématiques. Il y a du film qui rentre à l'intérieur. Et peut-être que vous êtes justement séparé de ce que vous étiez obligé de faire pour d'autres, quand vous trouvez peut-être pour Jacola, de faire une intro quand même. Bon, voilà, pas trop longue, quoi.
Ouais, exactement. Ben, j'estime que pour un projet de producteur, moi qui travaille déjà avec les rappeurs, je peux m'exprimer sur un projet personnel et faire des choses que les rappeurs n'ont pas forcément envie de faire sur leur projet à eux. Donc, au contraire, je trouve que les producteurs, c'est presque leur rôle d'aller proposer un peu d'autres choses et de pas se conformer à ce qu'on attend d'un album de rap, d'un format traditionnel.
Alors, Oriana Condvelbo, justement, pour finir, parce que quand il va falloir conclure, sans vous proposer de choses totalement qui n'ont rien à voir, mais il va falloir conclure cette émission. Si je reprends ce qu'on s'est dit, on a eu un premier âge d'or, les années 90, avec une espèce d'apogée à la fin des années 90, une décennie noire pour l'industrie, exactement, pas forcément pour la créativité. Et puis là, un nouvel âge d'or qui s'ouvre en 2010, qui dure encore jusqu'à maintenant, 2025. On rentre dans quelle phase ? Est-ce qu'il va y avoir un retour de bâton, comme après ce premier âge d'or ? Je vous pose la question à tous les quatre. On commence par vous, Oriana Condvelbo.
Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une hyper... on commence à arriver vers une hyper niche, une hyper spécialisation des musiques. Et qu'on va continuer à aller vers
un rap tentaculaire, en fait.
Ouais. Tout à fait, je pense.
Anis Rally, vous le voyez comment ?
Ouais, assez d'accord. Je pense qu'en effet, aussi, ça se démocratise le fait d'être niché, d'être un digger, etc. Il y a des soirées pour tel type, tel. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont vivre dans leur microcosme de sous-genre de rap et que ça va être très bien. Mais je pense aussi que ce qui est l'essence du rap, à savoir que ça descende des Afro-Américains, l'histoire, l'engagement, etc. J'ai l'impression que ça sera toujours le tronc solide, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est en mode, moi j'ai envie de redire des choses, j'ai envie de reprendre des instrus de cette époque. J'ai l'impression qu'eux, ils sont un peu le, j'espère, peut-être je suis naïf, mais ils vont rester le tronc solide et qui, ça
va. Dochi, qui incarne ça d'une certaine manière.
Et qui vont essayer de garder un peu les chevaux, quoi. Ouais, j'espère.
Non, bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, quand on parle d'âge d'or, est-ce qu'on parle d'âge d'or économique ou est-ce qu'on parle d'âge d'or créatif, qui sont deux choses quand même qui sont pas toujours liées ou parallèles. C'est ce que disait Oriana, c'est que le rap, en fait, il y a différents types de rap pour différentes populations, différents groupuscules. C'est comme ça qu'en ce moment je le vois.
Mais dis Maïzi d'un mot pour finir.
Lila dit, c'est encore la musique populaire et c'est la musique des jeunes. Ça le sera tant qu'elle continuera à se renouveler. Donc c'est ça tout l'enjeu de cette musique-là. Si elle arrête de se renouveler, qu'elle tombe dans une routine, une forme de standardisation, ben ce sera plus la musique numéro 1 et ce sera plus la musique des jeunes. Et ce sont les jeunes qui décident.
Tant qu'elle se renouvelle, elle peut être mainstream. C'est aussi votre créneau, Oriana Convelbo.
Tout à fait. Je plus sois.
Vous plus soyez. Magnifique. La productrice, l'accompagnatrice de talent plus sois. Le youtubeur, vulgarisateur est tout à fait d'accord. Le producteur signe et persiste. Et le journaliste, il a fait le livre. On est quand même assez raccord avec votre proposition. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Le rap à gagner, à quel prix chez La Fabrique Édition, c'est votre livre Mehdi Maïzi. Merci à Oriana Convelbo, donc productrice de rap, patronne de Volta Plus, c'est même inscrit sur votre veste en jeans. Merci Lielé, votre album Baked est toujours dans les bacs,
ouais.
Comme on disait à l'époque, ça m'étouffe même. Et merci à Anis Rally. On vous suit sur les réseaux et puis La Porte à Côté chez nos confrères de Move. On vous regarde également dans Liars Club, le nouveau programme de Prime Vidéo en compagnie de Cad et Olivier, aussi de McFly et Carlito, ou encore d'Ahmed Silla. Et grand merci à mon équipe. À la rédaction en chef, c'est Redouane Tella. À la réalisation, c'est Frédéric Milano. La préparation, Marion Philippe. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Et à la technique ce soir, Benjamin Wagon.